RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour. À un an de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les pêcheurs normands qui font face aux côtes anglaises craignent un Brexit dur qui couperait la Manche en deux. La pêche a été le fer de lance des pro-Brexit. Les pêcheurs britanniques ont remonté la Tamise avec leur flotte et ils ont massivement voté en faveur de la sortie de l'UE. Alors un an plus tard, l'enthousiasme est un peu retombé. Mais de l'autre côté de la Manche, à Port-en-Bessin, le Brexit est encore vécu comme une sérieuse menace. Reportage donc à Port-en-Bessin, premier port de pêche de Normandie, avec Béatrice Leveillé.
À la criée de Port-en-Bessin, un vaste entrepôt qui donne sur le port, l'activité bat son plein. Toute la nuit, les bateaux ont déchargé leur pêche. Les équipes de Cop&Port ont trié le poisson pour que les mareyeurs et les poissonniers puissent faire leur choix.
Alors quand l'alarme sonne, la vente commence. Ils sortent des étiquettes dans des petits boîtiers. Ensuite, ils distribuent dans tous les coffres qui ont été achetés. Et nous, on ramasse les coffres pour nos acheteurs. Et ensuite, moi par exemple, je fais les marchés. Donc ensuite, on va sur le marché de Caen et on vend sur l'étal, donc tout ce qui a été pêché de la nuit.
Là, vous avez travaillé toutes les journées là.
Voilà, c'est ça.
Et il faut être là à 5h30, c'est important.
Voilà, c'est ça. Bah nous, on commence plus tôt parce que notre remorque, on l'a déjà déposée sur notre lieu de travail. Donc on commence vers 3h du matin et on finit dans l'après-midi.
Bon courage. Hein. Merci beaucoup. Vous venez chercher de la coquille aussi ?
Ah, pas spécialement, je viens chercher les achats pour la maison Pinto, enfin Vivzo. On ne sait pas encore ce qu'ils vont acheter.
Et ils se dessinent en fonction du prix alors ?
Oui, oui, il y a un acheteur qui est là et qui voit à mesure. Je pense qu'il a déjà fait un tour avant pour évaluer. Et puis, comme vous dites, en fonction du prix, en fonction de leurs besoins. Voilà. Et puis après, ben, c'est eux qui redispatchent, hein, c'est leur travail, hein, ils sont mareyeurs. Hein.
Olivier Eudes, directeur de la criée, est content. La pêche a été bonne, 48 tonnes de poissons et de coquilles Saint-Jacques qui vont s'arracher à la criée.
48 tonnes sous la criée, c'est un chiffre correct, avec de la variété, poissons, coquilles, non, c'est très bien.
Les acheteurs sont où là ?
Actuellement, ils sont dans la salle des ventes, ils sont tous en train d'acheter. Alors par contre, ce que je vous demanderais, c'est qu'on ne va pas parler tarifs. Donc là, on a ici 24 postes dans la salle et environ au total 80 acheteurs. Hein, donc le restant achetant à distance, quoi, hein, via Internet. Ça crée une concurrence, mais ça permet aussi de réguler les prix. C'est quelque chose d'important, ça apporte une stabilité et pour les pêcheurs, avoir une garantie d'être payé en temps et en heure.
Pour que ce soit rentable une criée comme ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait du poisson, il faut qu'il y ait des pêcheurs.
Oui, bien sûr, il faut énormément d'apports hein, pour qu'un port vive. Hein, déjà, à la base, il faut des bateaux. Donc, on a de la chance sur Port-en-Bessin d'avoir quand même une flottille relativement importante. Aujourd'hui, nous sommes quand même 7e port français.
Et c'est bien la pêche qui fait vivre une ville comme Port-en-Bessin. Les pêcheurs s'apprêtent déjà à partir en mer, un métier difficile et dangereux qui ne fait pas peur à Paul, matelot sur le Bel Espoir.
On va travailler chez les Anglais au niveau du rail et le problème c'est que avec le Brexit, leur zone à eux, nous on n'aura plus le droit d'y aller travailler. C'est ça le gros problème. Et eux auront le droit de venir chez nous. Et l'avantage qu'eux ils ont, c'est qu'ils n'ont aucun quota. Donc ils peuvent rentrer avec 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes de coquilles, pendant que nous, les bateaux, on a le droit jusqu'à 4 quotas de 2 tonnes la semaine. Donc voilà le gros problème. Eux, en fait, ils en pêchent énormément. Toute la coquille qu'ils pêchent, eux, est revenue chez nous et elle est revendue en France.
Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui ?
C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui va se passer pendant les années encore à venir. Jusqu'à ce qu'il faudra que les pêcheurs français ils pètent un câble et qu'il y ait un truc pour que ça s'arrête.
De l'autre côté du port, au calme, dans la cabine d'un chalutier, deux autres marins s'interrogent sur leur avenir.
Je suis monsieur Gosselin Bruno, je suis le second mécanicien du Normandie, voilà.
Moi, c'est Denis. Moi, je suis matelot mécanicien, mais sur un autre bateau, sur le Louis-André.
Et ben maintenant, c'est fini la baie de Seine. Donc oui, on va au large jusqu'au 15 mai. Quoi.
Ça veut dire que vous allez partager les eaux avec les Anglais?
Oui, voilà, oui, on partage. On est très partageurs, nous. On partage un peu de trop, mais bon.
Est-ce que vous êtes inquiet avec le Brexit?
Ils viennent beaucoup plus chez nous que nous, on va chez eux.
Ah bon?
Bah oui. Les tangonniers, ils sont toute l'année chez nous, là. Ils sont en train de tout ratisser. Nous, des petits bateaux, même si c'est des 16 mètres, on va pas sur leur côte comme eux, ils font. Hein. C'est pas les mêmes bateaux. Hein.
Et puis nous, la pêche ferme le 15 mai, quoi. Eux, ils ont pas de limite. Bah, nous, on a des quotas en plus, eux, ils ont pas de quotas. Donc oui, on peut être inquiet, oui.
Parce que nous, c'est des bateaux de pêche, c'est pas des bateaux de pêche, c'est des cargos qu'ils ont. Alors, quand ils viennent par là, ils ratissent tout. Hein. Là, dans le large, il n'y a plus grand-chose. Hein. C'est de la pêche, mais c'est pas la même pêche que nous. Hein. Nous, ça reste de la petite pêche par rapport à eux. Hein. Finalement, on aurait la moitié de la Manche pour nous, la moitié pour eux. On serait sûrement gagnant, parce que nous, aller à la moitié de la route, ça nous va très bien, pas plus. Ah, c'est vrai, Bruno. Ça serait bien le Brexit comme ça.
Ouais, oui.
Mais c'est pas sûrement pas comme ça que ça va se passer.
À bord du Sauvage, un chalutier de Port-en-Bessin, Dimitri Rogoff a pêché pendant 30 ans la coquille Saint-Jacques. À terre, ce chaleureux colosse milite activement pour une bonne gestion des ressources. Il a été élu président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie.
La coquille, il faut rappeler que c'est la première espèce en valeur. Voilà. Hein, c'est 300 bateaux, donc en Normandie, s'il n'y a pas de coquille, la moitié de la pêche disparaît. Alors la coquille, c'est un truc qui rend à moitié fou aussi. C'est-à-dire que les gens qui font la coquille, au moment de la coquille, au moment où ça commence, tout ça, ils viennent fous, quoi, un peu, quoi. Et à cause de la coquille, on fait des guerres, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on se bat avec les Anglais. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'historiquement, les Anglais, on les avait pas sur le dos, la coquille. Hein. C'est depuis une bonne dizaine d'années qu'ils ont renforcé leur effort de pêche. Et puis, nous, on a une petite flottille artisanale, des petits bateaux familiaux. Les Anglais, c'est la grande industrie, c'est le grand capital, c'est des bateaux de 30-40 mètres. Et donc, c'est sans foi ni loi, quoi. Effectivement, ils pêchent tout, n'importe comment, et il n'y a aucune gestion de la ressource, quoi. Donc on se fout sur la gueule depuis 20 ans pour essayer d'harmoniser et pour l'instant il y a quelques pas en avant mais c'est pas encore satisfaisant.
La pêche maritime, c'est l'exploitation très réglementée d'une ressource commune, le poisson, qui se moque bien des limites des eaux territoriales. Depuis 1973, la politique commune des pêches encadre l'activité pour tous les États membres. Le Brexit pourrait mettre à mal le fragile équilibre du partage des eaux et des ressources. Dimitri Rogoff.
Le Royaume-Uni va devenir un pays tiers. Comme la Mauritanie, comme un autre pays. Et donc, ce qu'étaient les eaux communautaires, la Manche, en face de chez nous, ce qu'était une zone partagée au niveau de la ressource, de l'espace, eh ben, il va y avoir un côté français, un côté communautaire et un côté anglais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans le côté anglais? Ben, à la date d'aujourd'hui, on n'en sait rien. Le Brexit appliqué à la pêche, il n'est pas discuté encore à date d'aujourd'hui. Il y a très peu d'hypothèses. Alors, l'hypothèse, c'est le Brexit dur, ça veut dire qu'on nous fout dehors, complètement dehors. C'est pas que les Français, c'est toutes les flottilles européennes qui travaillent en Manche. Donc tout le monde revient au sud de la Médiane, sur les côtes françaises. Hein. Là, c'est un scénario auquel on veut pas croire, puisque le report de l'effort de pêche, si on met toutes les flottilles au même endroit, ben, il n'y aura pas assez de ressources, il n'y aura pas assez d'espace. Enfin, ça va être un drame complet pour tout le monde. On attend. Il y a une espèce d'incertitude qui fait que bon, ça peut créer des angoisses. Hein, mais bon, nous, on pense qu'on s'en sortira. Il faut qu'on s'en sorte, puisque ben, on lance des bateaux neufs. On a une pêche qui va bien, même très bien. Donc ce serait quand même dommage de mettre ça à mal.
La Manche est la zone où il y a la plus grande concentration de flottes de pêche. Manuel Évrard, directeur de l'Organisation des pêcheurs normands, qui regroupe une quinzaine de grands navires hauturiers et 130 chalutiers de 11 à 16 mètres, des coquillards qui restent près des côtes. Son rôle est de gérer les quotas de pêche issus de la politique commune des pêches et de réguler le marché pour maintenir les cours.
Le Brexit est une réelle préoccupation. Si on devait se retrouver face à un Brexit dure avec une fermeture complète des eaux, on se retrouverait dans une situation apocalyptique pour les ports français, ça c'est clair, oui.
Est-ce que c'est envisageable ?
J'ai du mal à croire qu'on puisse que les Britanniques puissent rester sur une position comme celle-là. Elle me semble difficilement tenable dans le temps. La contrepartie qui est importante pour eux, c'est l'accès au marché européen. En fait, le Royaume-Uni, au niveau de son industrie halieutique, son industrie de pêche, cultive un paradoxe. C'est qu'ils exportent l'essentiel de ce qu'ils pêchent en produits de la mer, et ils importent l'essentiel de ce qu'ils consomment. Donc dans les deux sens, les flux sont primordiaux pour les flux commerciaux. Donc je pense que ça va jouer beaucoup dans la balance et dans la réflexion et les négociations qui vont s'entretenir entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Condor Rapide pour notre traversée à destination de Jersey.
Dans les îles anglo-normandes, à Jersey, fief de la couronne britannique, situé à 20 km des côtes normandes, Don Thompson, le patron des pêcheurs jerseyens, n'a pas voté en faveur du Brexit, mais il comprend le choix de ses collègues britanniques.
98% of fishermen in the United Kingdom voted for Brexit. So that tells us.
98% des pêcheurs ont voté en faveur du Brexit au Royaume-Uni. Ça signifie bien qu'ils voient le Brexit comme une opportunité. Il faut se pencher sur la politique commune de la pêche, avec les quotas et la répartition des zones de pêche dans les eaux territoriales britanniques, pour comprendre pourquoi ils ont voté en faveur du Brexit. Parce que vraiment, quand la Grande-Bretagne a rejoint le marché commun, ça a été un changement très très mauvais pour les pêcheurs. C'était une lourde erreur et aujourd'hui, on a une opportunité de remettre tout ça d'équerre. Je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas anti-français, anti-hollandais ou anti-quoi que ce soit. Il s'agit simplement de trouver un moyen juste et équilibré pour maintenir la quantité de poissons dans les eaux territoriales du Royaume-Uni.
The stocks in the territorial seas, the fish stocks in the territorial seas of the United Kingdom.
Les pêcheurs danois, hollandais, allemands et dans une moindre mesure français pêchent un tiers de leurs poissons dans les eaux britanniques. Mais les Britanniques revendent les deux tiers de leurs produits sur le marché européen. Un Brexit dur entraînerait des taxes pouvant aller jusqu'à 24% sur ces produits. La pêche illustre bien la complexité du Brexit. Comment détricoter les accords ? Manuel Évrard va suivre de près les négociations. Les pêcheurs européens se sont regroupés au sein d'une alliance européenne des pêcheurs qui représente les organisations comme la sienne. Il admet que les pêcheurs britanniques puissent se sentir lésés. Manuel Évrard.
Historiquement, la pêche anglaise était orientée principalement sur des eaux nordiques. Ils avaient une pêche industrielle sur les eaux vraiment nord, notamment vers l'Islande. Ils se sont trouvés à un moment donné, d'une part chassés, entre guillemets, des eaux islandaises, où ils avaient cette pêche industrielle, et à l'inverse, ils étaient peu présents en Manche. Et les droits de pêche ont été figés par l'Union européenne en 1983. Et comme ils avaient une faible activité historique dans la Manche, ils se sont retrouvés avec une faible part de gâteau dans la Manche. Donc ils ont perdu sur les deux fronts. D'autre part, il y a la limite des eaux territoriales qui se trouve à 12 milles du trait de côte, dans lesquelles même les États membres au sein de l'Union européenne ont gardé leur souveraineté, c'est-à-dire que les autres flottes européennes ne peuvent pas rentrer dans nos 12 milles. Sauf là où il y avait des accords historiques, qui étaient même antérieurs avant même la mise en place de la politique commune des pêches. Et les 12 000 Britanniques font l'objet de nombreux accords historiques avec la France, avec la Belgique et la Hollande, qui fait que ces flottilles-là se retrouvent dans leurs eaux territoriales, les 12 000, là où les autres pays n'ont pas forcément de présence de flottilles étrangères dans leurs 12 000.
La pêche ne représente pas grand-chose, à peine 1% du PIB au Royaume-Uni. Pour Dimitri Rogoff, les pêcheurs n'ont pas grand-chose à gagner du Brexit. Ils ont été instrumentalisés.
En Angleterre, les pêcheurs étaient les plus pro-Brexit. De toute façon, ils ont été médiatisés, ils ont été instrumentalisés, ils sont remontés à la Tamise avec leur bateau, ils ont fait du bruit, et ils ont servi au lobby pro-Brexit. Bon, maintenant, ils se rendent bien compte que ça ne va pas être si simple. Le Fishing News, là, leur journal sur la pêche, ils avaient entouré toute l'Angleterre en rouge, et ils avaient titré « Jackpot ». ils se rendent bien compte qu'ils peuvent pas sortir comme ça, ils pourront pas faire ce qu'ils veulent. Il y aura une phase de transition où ils seront obligés de respecter ce qui avait été prévu dans la politique commune des pêches. Donc tout ça, ça va être assez compliqué. Et puis ça restera à nos voisins. Donc il va falloir qu'on continue à discuter, à échanger, à passer d'un pays dans l'autre. Donc tout ça, ça va pas être simple, quoi. Et la petite économie qu'est la pêche là-dedans, ce sera peut-être le petit grain de sable pour faire bouger les lignes, quoi.
Les Britanniques exportent 75% de leur pêche sur le marché européen, beaucoup de crustacés et de mollusques. Et ils importent beaucoup de poissons blancs, comme le cabillaud, indispensable pour l'incontournable fish and chips. La halle aux poissons de Port-en-Bessin, détruite par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été magnifiquement reconstruite sur un quai face à la mer. Yannick assure la vente de poissons toute l'année.
Vous avez tout ce qui est poisson pélagique, comme la dorade, le maquereau. Tous ces poissons-là sont pêchés dans la Manche Est et la Manche Ouest, pas très loin des côtes. Un avantage pour... si jamais il y a quelque chose avec le Brexit. Sinon, on peut dire que la Manche est très poissonneuse en variété. 1er octobre, 15 mai, coquille Saint-Jacques. Ça, c'est le produit phare de la région.
Avant de vendre des poissons, Claude Millinaire a été patron pêcheur.
Bien sûr, ça nous inquiète parce que ils vont nous diminuer nos zones de pêche, tout en sachant qu'ils vont continuer à envoyer leurs marchandises ici, en France. En France ou en Europe. Donc ça marche jamais dans le bon sens, quoi. Il faut savoir que nous, on est concernés beaucoup plus par la coquille. Et déjà qu'ils viennent la pêcher pratiquement chez nous, avant que nous on arrive, bon, ben ça c'est l'éternel problème. Ils consomment que 15%, c'est pas des grands mangeurs de coquilles, les Anglais. Puis ils ramènent le reste sur le marché français et sur le marché européen. Donc il n'y a que là qu'on peut les coincer. En bloquant les camions.
Le Brexit va faire tanguer toutes les flottes européennes, mais les pêcheurs britanniques, symboles de la reconquête, de la souveraineté britannique, pourraient bien perdre cette bataille. Manuel Évrard.
Je ne suis pas certain que la pêche britannique va réellement tirer son épingle du jeu, autant qu'il le souhaitait, de ce Brexit. Je pense que l'Union européenne veut éviter d'envoyer un message qui serait problématique, à savoir que finalement les pêcheurs anglais soient mieux lotis en dehors de la politique commune des pêches qu'à l'intérieur. Autrement dit, que les pêcheurs britanniques soient gagnants de cette sortie. Ce serait envoyé pour l'Union européenne, ce serait envoyé un message négatif aux autres pêcheurs européens.
Les pêcheurs normands face à la déferlante du Brexit, un grand reportage à Port-en-Bessin de Béatrice Leveillé, à la réalisation Pierre Chaffanjon.